Ramuncho, première partie, chapitre 8. Minuit. Une nuit d'hiver noire comme l'enfer, par grand vent et pluie fouettante. Au bord de la Bidassoa, au milieu d'une étendue confuse au sol traître qui éveille les idées de chaos, parmi des vases où leurs pieds s'enfoncent, des hommes charrient des caisses sur leurs épaules, et entrant dans l'eau jusqu'à mi-jambe, viennent tous les jeter dans une longue chose, plus noire que la nuit, qui doit être une barque. Une barque suspecte et sans fanal, amarrée près de la berge. C'est encore la bande d'Ichua, qui cette fois va opérer par la rivière. On a dormi quelques moments tout habillés, dans la maison d'un receleur qui habite près de l'eau. Et à l'heure voulue, Ichua, qui ne ferme jamais qu'un seul de ses yeux, a secoué son monde. Puis on est sorti à pas de loup, dans les ténèbres, sous l'onde froide propice aux contrebandes. En route maintenant, à l'aviron, pour l'Espagne, dont les feux s'aperçoivent au loin, brouillés par la pluie. Il fait un temps déchaîné. Les chemises des hommes sont déjà trempées, et sous les bérets enfoncés jusqu'aux yeux, le vent cingle les oreilles. Cependant, grâce à la vigueur des bras, on allait vite et bien, quand tout à coup apparaît dans l'obscurité quelque chose comme un monstre qui s'approcherait en glissant sur les eaux. Mauvaise affaire. C'est le bateau de ronde qui promène chaque nuit des douaniers d'Espagne. En hâte, il faut changer de direction, ruser, perdre un temps précieux quand on est déjà en retard. Enfin, pourtant, les voici arrivés sans encombre tout près de la rive espagnole, parmi les grandes barques de pêche qui, les nuits de tourmente, dorment là sur leurs chaînes devant la marine de Fontarabie. C'est l'instant grave. Heureusement, la pluie leur est fidèle et tombe encore à torrents. Tout baissés dans leur canot pour moins paraître, ne parlant plus, poussant du fond avec leur rame pour faire moins de bruit, ils s'approchent doucement, doucement, avec ces temps d'arrêt, si aucun rien leur a paru bouger, au milieu de tant de noir diffus et d'ombre sans contour. Maintenant, les voici tapis contre l'une de ces grandes barques vides, presque à toucher la terre. C'est le point convenu. C'est là que les camarades de l'autre pays devraient se tenir pour les recevoir et pour emporter leur caisse jusqu'à la maison de Russell. Personne, cependant. Où donc sont-ils? Les premiers moments se passent dans une sorte de paroxysme d'attente et de guet qui double la puissance de l'ouïe et de la vue. Les yeux dilatés et les oreilles tendues, ils veillent, sous le ruissellement monotone de la pluie. Mais où sont-ils donc, les camarades d'Espagne? Sans doute l'heure est passée à cause de cette maudite ronde de douane qui a dérangé tout le voyage. Et croyant le coup manqué pour cette fois, ils seront repartis. 10 minutes encore s'écoulent, dans la même immobilité, le même silence. On distingue alentour les grandes marques inertes, comme des cadavres de bêtes qui flotteraient. Et puis au-dessus des eaux, un amas d'obscurités plus denses que les obscurités du ciel, et qui sont les maisons, les montagnes de la rive. Ils attendent, sans un mouvement ni une parole. On dirait des bateliers fantômes, aux abords d'une ville morte. Peu à peu, la tension de leurs sens faiblit. Une lassitude leur vient, avec un besoin de sommeil. Ah, ils dormiraient là même, sous cette pluie d'hiver, si le lieu n'était si dangereux. Ichua alors tient conseil tout bas, en langue basque, avec les deux plus anciens, et il décide de faire une chose hardie. Puisqu'ils ne viennent pas les autres, eh bien tant pis, on va tenter d'y aller, de porter jusqu'à la maison, là-bas, les caisses de contrebande. C'est terriblement risqué. Mais ils l'ont mis dans leur tête, et rien ne les arrêtera plus. « Toi, » dit Chua à Raymond, avec sa manière à lui qui n'admet pas de réplique, « toi, mon petit, tu seras celui qui gardera la barque, puisque tu n'es jamais venu dans le chemin où nous allons. Tu l'amarreras tout contre terre, mais d'un tour pas trop solide. Tu m'entends? Pour être prêt à filer sans bruit si les carabiniers arrivent. » Donc ils s'en vont, tous les autres, les épaules courbées sur les lourdes charges, les frôlements à peine perceptibles de leur marche se perdre tout de suite sur le quai désert. Les frôlements à peine perceptibles de leur marche se perdre tout de suite sur le quai désert et si noir, au milieu des monotones bruissements de l'averse. Et Ramuncho, resté seul, s'accroupit au fond de son canot, pour moins paraître, s'immobilise à nouveau, sous l'arrosage incessant d'une pluie qui tombe maintenant régulière et tranquille. Ils tardent à revenir, les camarades, et par degrés, Dans cette inaction et ce silence, un engourdissement irrésistible gagne, presque un sommeil. Mais voici qu'une longue forme, plus sombre que tout ce qui est sombre, passe à ses côtés, passe très vite, toujours dans ce même absolu silence qui demeure comme la caractéristique de cette entreprise nocturne. Une des grandes barques espagnoles ? Cependant, songe-t-il, puisque toutes sont à l'ancre. Pourquoi celle-ci n'a ni voile ni rameur ? Alors, quoi ? C'est que c'est moi-même qui passe. Et il a compris. Son canot est trop légèrement amarré, et le courant très rapide ici l'entraîne. Et il est déjà loin, filant vers l'embouchure de la baie d'Assoa, vers les brisants, vers la mer. Une anxiété vient l'étreindre, presque une angoisse. Que faire ? Ce qui complique tout, il faut agir sans un cri d'appel, sans un bruit. Car tout le long de cette côte, qui semble le pays du vide et des ténèbres, il y a des carabiniers, échelonnés en cordons interminables, et veillant chaque nuit sur l'Espagne comme sur une terre défendue. Il essaie, avec une des longues rames, de pousser du fond pour revenir en arrière. Mais il n'y a plus de fond, il ne trouve que l'inconsistance de l'eau fuyante et noire. Il est déjà dans la passe profonde. Alors, ramez coûte que coûte, et tant pis. À grand-peine, la sueur au front, il ramène seul contre le courant la barque pesante, inquiet, à chaque coup d'aviron, du petit grincement révélateur qu'une ouïe fine, là-bas, pourrait si bien percevoir. Et puis on n'y voit plus rien, à travers la pluie plus épaisse qui brouille les yeux. Il fait noir, noir comme dans les entrailles de la terre où le diable demeure. Il ne reconnaît plus le point de départ où doivent l'attendre les autres, dont il aura peut-être causé la perte. Il hésite, il s'arrête, l'oreille tendue, les artères bruissantes, et se cramponne pour réfléchir à l'une des grandes marques d'Espagne. Quelque chose alors s'approche, glissant comme avec des précautions infinies à la surface de l'eau à peine remuée. Une ombre humaine, dirait-on, une silhouette, debout, un contrebandier sûrement, pour faire si peu de bruit. L'un l'autre, il se devine. Eh Dieu merci, c'est bien un Rochecoa. Un Rochecoa qui a détaché un frêle canot espagnol pour aller à sa rencontre. Donc, la jonction entre eux est opérée, et ils sont probablement sauvés tous, encore une fois. Mais à Rochecoa, en l'abordant, profère d'une voix sourde et mauvaise, d'une voix serrée entre ses dents de jeune félin, une de ces suites d'injures qui appellent la réplique immédiate et sonne comme une invitation à se battre. C'était si imprévu que la stupeur d'abord immobilise Raymond, retarde la montée du sang à sa tête vive. Est-ce bien cela que son ami vient de dire ? Sur un tel ton d'indéniable insulte. Tu as dit ? Dame, reprend Rochecoa, un peu radouci tout de même, sur ses gardes, observant dans les ténèbres les attitudes de Ramuncho. Dame, tu as manqué nous faire prendre tous, maladroit que tu es ! Cependant, les silhouettes des autres surgissent d'un canot voisin. Ils sont là, continue-t-il. Arme ton aviron, rapprochons-nous d'eux. Ramuncho se rassit à sa place de rameur, les tempes chaudes de colère, les mains tremblantes. Non d'ailleurs, c'est le frère de Gracieuse. Tout serait perdu s'il se battait avec lui. À cause d'elle, il courberait la tête et ne répondrait rien. À cause d'elle, il courberait la tête et ne répondrait rien. Maintenant, leur barque s'éloigne à force de rames, les emmenant tous. Le tour est joué. Il était temps. Deux voix espagnoles vibrent sur la rive droite, deux carabiniers qui sommeillaient dans leurs manteaux et que le bruit a réveillés. Ils commencent à héler cette barque fuyante et sans fanal, moins aperçue que soupçonnée, perdue tout de suite dans l'universelle confusion nocturne. « Trop tard, les amis !» ricanit Chua, en ramant à outrance. « Hélez à votre aise à présent, et que le diable vous réponde !» Le courant aussi les aide. Ils s'éloignent dans l'épaisse obscurité avec la vitesse des poissons. Ouf ! Maintenant ils sont dans les eaux françaises, en sécurité, non loin sans doute de la vase des berges. Arrêtons-nous pour souffler un peu, propose Ichua. Et ils lèvent leurs avirons, tout haletants, trempés de sueur et de pluie. Les voici de nouveau immobiles, sous l'ondée froide qui ne semble pas sentir. On n'entend plus, dans le vaste silence, que le souffle peu à peu calmé des poitrines. La petite musique des gouttes d'eau qui tombent et leur ruissellement léger. Mais tout à coup, de cette barque qui était si tranquille et qui n'avait plus que l'importance d'une ombre à peine réelle au milieu de tant de nuit, un cri s'élève, suraigu, terrifiant. Il remplit le vide et s'en va déchirer les lointains. Il est parti de ces notes très hautes, qui n'appartiennent d'ordinaire qu'aux femmes, mais avec quelque chose de rauque et de puissant, qui indique plutôt le mâle sauvage. Il a le mordant de la voix des chacals, et il garde quand même on ne sait quoi d'humain, qui fait davantage frémir. On attend avec une sorte d'angoisse qu'il finisse. Il est long, long. Il oppresse par son inexplicable longueur. Il avait commencé comme un haut bramement d'agonie. Voici qu'il s'achève et s'éteint en une sorte de rire, sinistrement burlesque, comme le rire des fous. Cependant, autour de l'homme qui vient de crier ainsi à l'avant de la barque, aucun des autres ne s'étonne ni ne bouge. Et après quelques secondes d'apaisement silencieux, un nouveau cri semblable part de l'arrière, répondant au premier et passant par les mêmes phases, qui sont de tradition infiniment ancienne. C'est simplement l'Irinsina, le grand cri basque, qui s'est transmis avec fidélité au fond de l'abîme des âges jusqu'aux hommes de nos jours, et qui constitue l'une des étrangetés de cette race, aux origines enveloppées de mystères. Cela ressemble au cri d'appel de certaines tribus peau-rouges dans les forêts de l'Amérique. La nuit, cela donne la notion de l'insondable effroi des temps primitifs, quand au milieu des solitudes du vieux monde hurlaient des hommes au gosier de singe. On pousse ce cri pendant les fêtes, ou bien pour s'appeler le soir dans la montagne, et surtout pour célébrer quelques joies, quelques aubaines imprévues, une chasse miraculeuse ou un coup de filet heureux dans l'eau des rivières. Et ils s'amusent les contrebandiers à ce jeu des ancêtres, et ils donnent de la voix pour glorifier leur entreprise réussie, ils crient par besoin physique de se dédommager de leur silence de tout à l'heure. Mais Ramuncho reste muet, sans un sourire. Cette sauvagerie soudaine le glace. Bien qu'elle lui soit depuis longtemps connue, elle le plonge dans les rêves qui l'inquiètent et ne se démêle pas. Et puis, il a senti ce soir, une fois de plus, combien était incertain et changeant son seul appui au monde, l'appui de cet Arochkoa, sur qui il aurait pourtant besoin de pouvoir compter comme sur un frère. Ses audaces et ses succès au jeu de paume le lui rendront sans doute, mais une défaillance, un rien, peut à tout moment le lui faire perdre. Alors, il lui semble que l'espoir de sa vie n'a plus de base, que tout s'évanouit comme une inconsistante chimère.